Donc cette méta-analyse récente de la Cochrane, on voit qu'elle a été publiée en 2016, avait pour objectif d'évaluer à la fois l'efficacité et la tolérance de la corticothérapie chez les patients atteints d'une paralysie faciale périphérique idiopathique. On ne s'intéresse pas aux paralysies faciales périphériques symptomatiques d'une infection virale, d'un abcès parotidien, etc. etc. Donc voilà, c'est déjà important de préciser ce cadre nosologique. Quelle était donc la question posée ? La population était vraiment, on l'a déjà dit, ces sujets atteints d'une paralysie faciale périphérique idiopathique. Cette méta-analyse s'est reposée sur 895 sujets. Ils étaient issus de 7 études quasi randomisées ou randomisées. L'intervention analysée était la corticothérapie. Il y avait une certaine hétérogénéité dans la corticothérapie analysée, que ce soit sur le mode d'administration, péros ou intraveineux, sur la posologie, mais également sur le délai d'instauration, car on sait que potentiellement cela peut jouer. Le comparateur était le placebo ou, petite originalité, l'absence de traitement. Et l'outcome était la récupération motrice incomplète à 6 mois. Certains auteurs, notamment, se servaient d'une échelle pour juger de cette récupération motrice. Alors, on va s'intéresser un petit peu plus sur les manières de présenter les résultats des méta-analyses. C'est toujours la même chose dans les méta-analyses. On a ce genre de tableau récapitulatif avec sur la droite ce graphique, ce forest plot que l'on va un petit peu détailler. On a d'abord un rappel au-dessus du tableau sur le groupe intervention, le groupe contrôle et l'outcome étudié. On voit que sur les différentes lignes listées sont représentées les études qui ont été incluses dans cette méta-analyse. On peut voir qu'elles sont au nombre de 7. Chaque étude est dénommée en fait par le nom de l'auteur et l'année de la publication de cette étude. Dans la seconde colonne, on voit là le groupe OS, on peut lire un petit peu plus haut que c'est le groupe intervention, c'est ceux qui ont reçu les corticoïdes. Et par exemple, si on s'intéresse à Austin 1993, on voit qu'il y avait 5 personnes dans le groupe événement, c'est-à-dire qu'il y avait eu cette récupération motrice incomplète à 6 mois sur les 23 personnes incluses dans ce groupe intervention corticothérapie. La colonne d'à côté, qui est la colonne du groupe contrôle, ici dénommée OO, on voit par exemple, toujours pour revenir à l'étude d'Austin 93, qu'il y avait 10 récupérations motrices incomplètes sur les 30 personnes incluses. La colonne suivante est la colonne poids. Quel est le poids de chaque étude de manière individuelle au sein de cette méta-analyse ? Vous voyez que finalement, dans ces études, il y a une grande hétérogénéité sur le poids de chacune dans les résultats globaux. Vous voyez de suite l'étude d'Enstrom 2008, la deuxième étude, 50% de poids, c'est colossal, ça pèse pour plus de moitié dans les résultats, ce qui est à prendre en compte. Les deux dernières colonnes présentent exactement les mêmes résultats, simplement de deux manières différentes. Une version que finalement on est plutôt habitué à rencontrer quand on lit des articles, est la version numérique. On a les risques ratios. Pour reprendre ce d'Austin, la première ligne 0,65, suivi entre crochets de l'intervalle de confiance. Et on sait que lorsque l'intervalle de confiance comprend 1, on ne peut pas conclure sur la significativité de nos résultats. Donc on ne peut pas conclure une conclusion solide. La représentation graphique à côté, le forest plot en lui-même, où on voit cette ligne verticale d'absence d'effet qu'il faut bien se mettre en tête, et ensuite se positionnent les résultats des études à droite ou à gauche de cette ligne selon les résultats trouvés. Les résultats sont montrés sous forme d'un carré. Pour reprendre l'étude d'Austin 93, on voit que le petit carré est situé à la gauche de cette ligne. Cela signifie que la corticothérapie ferait justement aurait un impact bénéfique dans la paralysie faciale périphérique idiopathique. En revanche, vous voyez qu'il y a des traits horizontaux qui dépassent de part et d'autre de ce carré. Ce sont ces moustaches qui sont également importantes à prendre en compte et qui représentent la largeur de l'intervalle de confiance. On voit que ces moustaches croisent la ligne d'absence d'effet. On ne peut pas conclure. A contrario, si on regarde l'étude d'Enstrom 2008, il y a déjà deux choses qu'on peut voir. D'une part, les carrés ne sont pas du tout de la même taille. Pourquoi ? Parce que, en fait, la taille du carré dépend immédiatement du poids de l'étude. Le poids dépend à la fois du nombre de sujets inclus dans l'étude. Vous voyez que Engstrom, c'est donc la deuxième ligne, il y a plus de 400 malades. Mmh. C'est colossal. Deuxièmement, le poids de l'étude repose également sur ses qualités méthodologiques. Voilà. Plus une étude a de biais, de moins bonne qualité elle est, et finalement, le poids sera moindre. On voit par exemple Ken Strom en 2008, son carré est bien situé à la gauche de la ligne et il n'y a pas ces moustaches qui viennent recouper cette ligne d'absence d'effet, ce qui signifie que les résultats sont significatifs. On voit que sur les 7 études sélectionnées, finalement, elles étaient toutes en faveur du traitement de la paralysie faciale par corticoïde, sauf une étude avec des résultats qui n'étaient pas significatifs, c'est la quatrième. La dernière ligne, est importante de regarder, c'est celle qui synthétise les résultats de la méta-analyse.
C'est quand même le résultat
attend tous. Exactement, c'est vrai que j'ai détaillé...
Qu'on appelle le diamant, donc.
Le diamant ou losange. Là, on voit que celui-ci est assez étroit, qu'il est bien situé à gauche de la ligne, qu'il ne vient pas recouper cette ligne d'absence d'effet. On peut donc dire qu'en faisant une analyse de l'ensemble de ces études, cette méta-analyse est en faveur du traitement par corticothérapie de ces parésies faciales.
Il faut traiter.
Ça, je le dirais dans les techo-messages, c'est évident. Autant il y avait un flou artistique quand on était sur les bancs de la fac, est-ce qu'il fallait le faire ? Il y avait des ayatollahs du oui, d'autres du non. Il faut le faire.
On va passer au techo-message parce qu'on est un peu pris par le temps.
Il n'y a pas de souci. Le techo-message, c'est voilà. Clairement, il faut traiter. Il y a une très bonne tolérance, je ne l'avais pas dit. Il n'y avait pas de facteur d'exclusion. Ils ont traité les sujets diabétiques, ils ont traité les insuffisants rénaux. Donc, il faut y aller.
On traite, ok.
Et il faut même traiter pour prévenir ce qui est les séquelles moins fréquemment vues, mais tout ce qui est les syncinésies, les problèmes de mouvements faciaux involontaires, et puis syndrome des larmes de crocodile, les corticoïdes font également diminuer tous ces effets secondaires. Donc il faut y aller, on traite par corticoïdes, et je précise juste, il faut adjoindre à ces corticoïdes, surtout pas seul, il faut y adjoindre un traitement antiviral. C'était l'objet de la diapo précédente que je n'ai pas pu détailler, parce que le traitement antiviral, en adjonction à la corticothérapie, fait diminuer également toutes ces séquelles.
Alors c'est une question, puisque le traitement antiviral seul, par exemple,
ne fait pas mieux que le placebo.
Ne fait pas mieux que le placebo, on
Exactement,
est bien d'accord
hein,
dans le message. Et... Okay. Merci Sébastien Mérou.